Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Bonjour à tous et bienvenue dans Super Laser Punch. Je suis Patrick Béja et il y a ici à côté de moi, juste à côté, virtuellement, on porte quand même nos masques, c'est Johan. Comment ça va, Johan?
Eh ben ça va pas mal, un petit peu, voilà, un petit peu un down en ce moment, je suis un peu fatigué. Mais
ouais,
écoute,
on sent le réveil, le réveil tautif, ouais. Par les enfants qui sont venus te dire bonjour au milieu de la nuit, enfin l'enfant.
Voilà, heureusement c'est férié pour moi aujourd'hui, donc ça va, c'est pas trop grave.
Tu peux te reposer un peu, c'est bien.
Ouais.
Écoute, on a un beau programme aujourd'hui dans notre émission spéciale tous les trucs de super-héros, mais pas que. Parce qu'on va parler d'un truc, mais pas que, on va parler d'un truc Star Wars. En gros, on parle de Disney hein, dans ce podcast, et de tous les trucs Disney.
On est revenu à Disney, voilà.
Voilà, ou de super-héros, enfin, tous les trucs où il y a des lasers ou des punchs. Et en l'occurrence, il y a des sabres lasers, puisqu'on va parler de Obi-Wan Kenobi, les trois premiers épisodes qui sont passés. On fera une conclusion sur la série quand les trois autres seront passés. Ou peut-être, je ne sais pas, avant, parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent, on en parlera tout à l'heure, dont on voudra vous parler aussi. Mais pour le moment, donc, Obi-Wan Kenobi, série Star Wars très attendue, puisqu'elle présente le retour de Ewan McGregor en tant que personnage titre de la série Obi-Wan Kenobi. Bien longtemps après les préquels, et littéralement, il est plus âgé, il est plus vieux, puisque l'action se passe 10 ans après la fin de... merde, comment il s'appelle le troisième la Revanche des Sith.
La Revanche des Sith.
C'est ça. j'ai failli me... On va me reprendre ma carte de geek. Non, je m'en suis souvenu, ça va. Et c'était une série qui était assez attendue, parce que dans les séries Star Wars, il y a eu du bon et du moins bon. Et on avait très, très peur qu'il merde encore un truc qu'on aimait bien, même si, bon, moi, je t'avoue que je ne suis pas un grand fan des prequels. Le personnage d'Obi-Wan Kenobi est quand même assez mythique. Et du coup, on avait peur. Alors, les trois premiers épisodes ont été diffusés. Moi, je les ai vus. Toi, tu les as vus hier. Je ne sais pas comment tu veux procéder. Est-ce qu'on fait épisode par épisode ou vu dans l'ensemble? Peut-être d'abord te poser la question, est-ce que tu aimes bien ou est-ce que tu n'aimes pas?
Alors, j'aime bien. J'aime bien. Il y a un truc, en fait, qui est lié à la prélogie. Moi, j'ai beaucoup d'attaches un peu sentimentales sur la prélogie, même si, quand je la regarde un petit peu avec objectivité, je suis bien obligé d'admettre que c'est pas exceptionnel. Mais j'ai
c'est
pas mal d'attaches. Ouais.
On arrive à cette période où les gens qui ont grandi avec sont suffisamment âgés pour se rendre compte de ce que savent déjà ceux qui ont grandi avec la trilogie originelle, qui est que franchement, c'est vraiment pas terrible cette prélogie. Et autant, moi, j'adore l'univers de Star Wars, autant je reconnais que même la trilogie d'origine, franchement, elle a vieilli, quoi, même s'il y a des trucs cool. Et la prélogie, je l'ai toujours trouvée un petit peu boiteuse, on va dire, à de nombreux égards. Mais toi, tu fais partie de la génération qui a grandi avec et tu confirmes quand on la revoit aujourd'hui...
Je vais rajouter une couche, c'est que même si je prends toute mon objectivité possible, je continue à trouver la prélogie meilleure que la postlogie. Donc voilà.
Alors la postlogie, on pourrait en reparler. Oui, moi je trouve qu'il y a du bon et du moins bon. Est-ce que The Last Jedi, tu le trouves bon? Si
non.
On prend juste celui-là. Non.
Ouais, non, non.
Oh là 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 là. Il est très clivant, mais moi, je l'adore. À part quelques... Ah, enfin bon, bref, on pourra en parler parce que Obi-Wan, il y a des parallèles.
Juste pour clôturer là-dessus, non, c'est pas que je déteste. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais c'est vrai que globalement, moi, c'est un truc que j'ai pas aimé, vraiment pas aimé, quoi. Plutôt du côté pas aimé du tout. Mais je reconnais qu'il y a des choses super cool, des trucs super badass, des scènes superbes, etc. Pour revenir à Obi-Wan, bah du coup, moi, c'est un personnage, voilà, moi, je dis souvent que c'est vraiment le soleil de la prélogie, quoi, ce personnage-là, super positif, en fait, c'est un Jedi, tu vois, quand tu penses aux Jedi qui sont présentés dans cette prélogie-là, parce qu'il y a beaucoup de Jedi, c'est quand même, en général, des personnages tu vois, ils font tous un peu la gueule, etc., quoi. Tu penses à Mass Windu, même Yoda qui, tu repenses à lui justement à la trilogie originale, c'était cette espèce d'énergumène un petit peu rigolard, machin. Dans la prélogie, c'est quelqu'un de tout à fait sérieux et voilà, qui fronce des sourcils, etc., quoi. Et du coup, mis tout ça, et Obi-Wan, c'était quelqu'un, ouais, un peu rayonnant, plein de sourires, etc. Et du coup, moi, j'avais vraiment gardé un peu ce côté, ce côté un peu positif, etc. Et j'étais trop, trop content de le revoir et de voir justement ce personnage-là, après 10 ans de cavale, après les événements dramatiques de ce troisième épisode. Et du coup, ouais, j'avais vraiment un a priori, on va dire, positif. Alors, j'avais un peu peur, effectivement, que ça soit un peu cheap, comme peut l'être la dernière série, la Boba Fett, etc. C'est pas au niveau des films.
Un peu généreux.
C'est pas au niveau des films, il y a quand même un peu de cheap là-dedans, mais je trouve qu'ils s'en sortent globalement bien. La réalisation, je la trouve assez solide. Alors, il y a quand même des choses à redire et tout ça, hein, mais globalement, moi, j'ai passé un bon moment. Il y a des personnages dont on ne va pas parler, mais moi qui m'intéresse beaucoup. Non, ça se passe très très bien. Je pense que je dirais que c'est pas au niveau de ce que de Mandalorian, où pour moi c'était vraiment frais, c'était vraiment le retour à du Star Wars un peu frais, etc. Là, on est dans la nostalgie, hein. Il y a beaucoup de personnages qui rappellent soit les trilogies, soit je crois comprendre aussi les différentes séries animées que moi je ne connais pas du tout. Mais voilà, moi ça se passe bien, c'est pas non plus l'extase, mais c'est doudou, quoi. C'est très doudou, je suis bien là-dedans. J'ai presque envie de. Je pense que quand ils seront tous sortis, je me les referai probablement tous un peu d'affilée avec la. Je me referai les Star Wars et tout ça, quoi. Et puis,
ah oui, carrément tout, ça te lie au. D'accord, ouais.
Voilà.
D'accord. Donc, voilà. Donc plutôt positif. Moi, ouais. Comme on a commencé à le dire, j'ai pas un attachement irrationnel à la saga Star Wars. J'y suis attaché parce que ça fait partie de mon enfance et que ça fait partie de la culture et qu'il y a quand même évidemment des choses intéressantes dans les films. Mais je suis un petit peu comme, tu sais, il y a des gens qui regardent les films Marvel un petit peu détachés, tu sais, genre « Ah ouais, celui-là, il était sympa, celui-là, bon, non, c'est un peu pourri, machin. » Moi, je suis un petit peu comme ces gens-là, mais par rapport à Star Wars. Marvel, quand ils disent ça, je ne les comprends pas, tu vois. Je suis même les films Marvel qui sont mauvais, ils ont quand même un impact sur moi, tu vois. Je suis investi, on va dire. Dans Star Wars, je suis beaucoup moins investi. Et en particulier parce que je trouve que, objectivement, même, comme je le disais, la trilogie d'origine, bon, il y a quand même des trucs qui ont vachement vieilli et qui ont mal vieilli. Et donc, je suis arrivé à cette série avec pas beaucoup d'attentes. Quand même, bien sûr, le fait que c'est le personnage d'Obi-Wan et puis on va reparler. Comme tu le disais, il y a quelque chose d'intéressant avec le Mandalorian parce que c'est complètement différent et c'est un attrait qui n'est pas le même. Pour le Mandalorian, on voit quelque chose de vraiment différent dans l'univers Star Wars, c'est hyper intéressant et c'était très réussi. Là, c'est le plaisir, effectivement, de retrouver des trucs que tu connais. Mais j'y étais pas... mes attentes n'étaient pas hyper élevées et puis Boba Fett un petit peu décevant. Mais je me disais, ça va être cool quand même, de retrouver Obi-Wan, et c'est cool qu'ils aient eu Ewan McGregor pour reprendre le rôle, donc ça fait une continuité, etc. Et du coup, j'ai l'impression encore plus agréablement surpris que toi, ou pas agréablement surpris, mais j'ai passé un vraiment bon moment. J'ai trouvé que le truc était bien mené, réussissait à à coller dans la continuité sans être trop acrobatique, on va dire. Ça pourrait logiquement s'être passé comme ça. Et en plus, un truc qui m'a fait plaisir, sans trop spoiler, c'est qu'on ne passe pas notre vie sur Tatooine. J'avais très peur que ça soit encore toute la série qui se passe sur Tatooine, parce que bien sûr, Obi-Wan est sur Tatooine, et qu'on n'explore pas, qu'on ne profite pas de la richesse d'une galaxie que peut nous proposer Star Wars, qui est justement le space opéra. Et en l'occurrence, bon, on a des différents endroits qu'on va aller voir, même si c'est ancré dans Tatooine, et si ça fonctionne, et je trouve que... peut-être qu'on va pouvoir parler un petit peu plus précisément des différentes étapes de la série, mais je trouve que c'est bien ficelé, et j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui la trouve vraiment mauvaise, quoi. Je pense pas qu'on puisse, à part quelques petits aspects dont on parlera qui sont un petit peu ridicules, mais qu'on puisse vraiment ne pas aimer cette série parce qu'elle propose absolument ce qu'on pourrait attendre et de manière plutôt réussie. Donc, a priori, oui, très positif sur Obi-Wan Kenobi.
Ouais, j'avais la même crainte que toi sur Tatooine, parce que du coup, moi, je ne savais rien de la série du tout. J'avais juste vu le titre, pour le coup j'avais pas regardé de bande-annonce,
ouais, moi non plus.
Ou alors appelé un teaser, quoi. Et du coup j'étais assez agréablement surpris, ouais, qui décolle finalement assez vite de Tatooine, quoi, parce que Tatooine, moi j'en peux plus, hein, c'est ça se passe dans une galaxie, mais tout le monde se retrouve à Tatooine tout le temps, alors c'est que ça. C'est censé être l'endroit où les gens ne vont jamais, tu vois.
Exactement, ouais, c'est The Outer Rim, la planète pourrie, et bon,
ouais.
Je te propose qu'on passe quand même un petit peu en revue chaque épisode, rapidos.
Ouais.
Donc, on va parler avec spoiler, là. Si vous n'avez pas vu la série, on vous la recommande, allez la regarder. Puis on va parler avec spoiler, j'imagine que tout le monde l'aura vu quand même. Premier épisode, du coup, c'est vraiment, on retrouve Obi-Wan et on a son quotidien et l'arrivée des Inquisiteurs et des... Sixth Sister, Fifth Brother, machin, et Third Sister, dont je ne savais pas qu'ils étaient un truc, à part dans le jeu Fallen Order. Peut-être que c'est un truc qui existe ailleurs, mais c'est pas mal parce que ça résout un problème qu'il y a avec le canon des Sith, c'est qu'il y en a toujours deux, et du coup, tu peux avoir personne qui est méchant et qui a un sabre laser si t'as pas d'autres Jedi que les Sith. Et là, en l'occurrence, c'est souvent des Jedi qui se sont convertis au côté obscur. Et donc, bon, allez, on va dire ça passe. Il y a d'autres Jedi, mais qui sont méchants. Et c'est l'Inquisition et les différents Brothers Sisters. Bon, c'était pas mal. Mais oui, donc le fait qu'on retrouve Obi-Wan qui se fasse tout petit tout en surveillant Luke et qui travaille dans cette sorte de grosse boucherie là, bizarre, j'ai trouvé ça bien établi, bien, ça pose bien l'ambiance, c'est pas trop rapide, ça fonce pas dans l'action tout de suite, mais il y a quand même de l'action. Ouais, j'ai trouvé ça pas mal, et puis il y a ensuite la partie avec Leia dont on peut parler, mais j'ai trouvé que le premier avait pas vraiment de fausses notes, quoi.
Ouais, ouais, il pose super bien les choses. Tout ça, c'est crédible. Et puis, c'est vraiment là, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est que on découvre un petit peu cet Obi-Wan, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Et tu recolles les morceaux aussi avec le Obi-Wan qu'on connaît de la trilogie originale. Et puis, tu retrouves un peu cette ambiance. Cette ambiance-là, donc ça marche super bien. Et puis après, ouais, la vraie surprise, effectivement, c'est le jump vers Alderaan, où on retrouve cette Leia enfant, que je trouve absolument formidable. Hein. C'est vraiment, au début, j'ai eu très peur, hein, parce que les enfants dans les séries, en général, ouais. Je me suis dit, aïe, 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 si jamais c'est des personnages principaux, s'ils jouent pas très bien, ça va m'agacer, etc. Finalement, cette petite, elle est extraordinaire. Je la trouve très rigolote. Et puis, tu retrouves vraiment tout de Leia, quoi. Ils ont vraiment réussi à transposer les caractères principaux de la Leia qu'on a à la fin, du coup, de cette postologie, hein, très générale, altruiste, etc. Mais elle a transposé en des caractères enfantins. Et alors, bien sûr, c'est un peu tout moche, elle a 10 ans, elle est surdouée, clairement, mais ça marche super bien. Et pour moi, ouais, ça, c'est la super bonne surprise de la série, c'est ça, c'est cette Leia-là. Finalement, j'ai adoré la retrouver dans cet environnement-là, avec du coup le protocole, le machin, etc. Non, ça, enfin, là, déjà, en fait, c'est ça qui m'a un peu accroché assez vite, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire qu'au début, on est un peu plan-plan, alors on découvre Obi-Wan, tout ça, on pose l'univers, etc. Et puis, il y a ce truc-là qui arrive, et là, j'étais là, ah, ok, là, ça m'intéresse. Finalement, en général, quand il y a des choses, tu sais, qui t'expliquent ce qui s'est passé pendant que, enfin, tu sais, les préquels ou ce genre de choses-là.
Ouais, les trucs qui s'insèrent entre deux machins, ouais, et généralement, ça colle pas.
C'est de dire, bon, s'il l'avait pas raconté à la base, c'est que c'était pas forcément super intéressant à raconter. Mais voilà, ils arrivent à en faire quelque chose assez vite, en fait, même si c'est juste, même s'il n'y a pas d'intrigue, tu vois, tu te dis, ah ok, c'est intéressant, ça se passait comme ça pour elle, ça se passait comme ça pour lui, etc. Il y a des choses qui sont déjà intéressantes dans le setup, on va dire. Et puis, je sais pas si tu voulais dire des choses sur Leia.
Leia, tout ce que tu as dit, effectivement, elle est vachement bien. On va passer sur le fait que les scènes de poursuite de Leia sont parfaitement ridicules.
C'est incroyable.
On est dans la nanarie la plus totale. Parce que, et il y a beaucoup de gens qui... Ouais, vas-y.
Non, j'allais dire, là, c'est le moment où on arrive presque du côté Boba Fett, quoi, de la série Star Wars.
C'est vraiment parfaitement ridicule, et il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu accrochés à ça pour dire que, pour condamner la série dans son ensemble ou dans la veine de cette chose-là, ce qui, moi, bon, effectivement, c'est pas très bien réalisé, et je suis sûr qu'ils auraient pu couper quelques plans et pour montrer que, oh, mais où elle est passée sous l'arbre, mon Dieu, comment vais-je faire, machin. Bon, effectivement, c'est couillon.
Ouais, en fait, ils auraient pu la capturer tout de suite, quoi, et montrer qu'elle se débat, qu'elle sait pas faire, et on avait compris, et c'était pas la peine de faire 5 minutes de course-poursuite à pied en marchant dans la forêt, quoi.
Ouais. D'autant plus que dans l'épisode suivant, elle le refait avec Obi-Wan dans la ville. C'est vraiment... bon. Et si la scène, le résultat, c'est ça, j'ose même pas imaginer tout ce qu'ils ont tourné, tu vois, et qu'ils ont coupé pour pas que ça soit encore plus ridicule. Bref. Bon, on passe là-dessus, on s'en fout, moi, ça m'a pas gêné. On a compris, elle essaye de s'échapper. OK. Mais le fait qu'ils mettent le focus sur Leia, justement, j'ai trouvé ça brillant, j'ai trouvé ça vraiment bien, parce que ça aurait été tellement facile de faire encore un truc avec Luke, ou de mettre en avant... alors que, effectivement, c'est les deux jumeaux, ils sont censés être aussi importants dans l'histoire, enfin, aussi importants, c'est les deux enfants, machin... je trouve ça très bien qu'ils aient mis le focus sur elle, d'ailleurs, ils le disent, hein, ils font un clin d'œil à peine voilé dans la série pour dire... Oui, mais enfin, Luke, mais elle aussi, elle est importante, quoi. On peut en parler un petit peu, Leia. Ouais. Donc, ça, j'ai trouvé ça très bien, quoi. Et donc, bon, voilà, on a les Inquisiteurs qui arrivent et l'autre Jedi qui se fait finalement capturer et tuer. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la manière dont la série le pend sans le pendre, tu sais, pour que ça reste child-friendly. Quand tu vois les jambes, tu te dis, mais ils vont montrer.
Il a été pendu.
C'est ça. Ah non, en fait, ils l'ont juste accroché avec des fils.
Ils l'ont pendu
des
câbles. Près des épaules. Voilà.
Ouais, c'est ça. Mais vraiment, tu comprends la symbolique, c'est qu'ils l'ont pendu, quoi. Si c'était pas pour les enfants, il serait pendu avec le cou tordu, tu vois. Donc, c'est vraiment pas des rigolos, quoi. Et je le trouve bien, cet arc du personnage, ce personnage, parce qu'en plus, il renvoie à Obi-Wan, et ce qui a provoqué d'ailleurs un débat assez violent sur Twitter, comme souvent quand on parle de la comment on dit, la suite-logie, comment on dit la trilogie d'après ?
La post-logie.
La post-logie, mais du personnage de Luke Skywalker, justement, qui est ce vieux maître désabusé, et qui refuse au départ d'accomplir son destin, finalement, ou de faire ce que doit faire un Jedi. Et là, de la même manière, Obi-Wan, il dit non au Jedi. Il lui dit, mais enterre ton sabre laser et barre-toi, quoi. Moi, je veux rien avoir avec ça. C'est terminé, on peut pas. Il est complètement dépité. Et je sais qu'il y a des gens qui ont dit... Enfin, il y a beaucoup de gens qui se déchirent parce qu'ils ne veulent pas que Luke ait pu être comment dire, présenté de cette manière dans le... Mais je pense qu'il est difficile. Alors ensuite, on pourrait dire c'est mieux présenté dans Obi-Wan et on l'accepte plus que dans les derniers Jedi. Mais je pense qu'il est difficile de pas faire le parallèle entre les deux arcs. Et c'est marrant parce que l'un des trucs que disait George Lucas, il disait que Star Wars, ça rime. C'est pas qu'on redit les mêmes choses, mais ça rime. Il y a des échos de, d'un truc, d'une époque à l'autre, d'un truc à l'autre. Et là, c'est exactement ça. Alors, je suis pas un super fan de la manière dont George Lucas gère sa série, mais là, il y a clairement une rime, effectivement. On retrouve à travers les époques, à travers les personnages, un thème similaire. Et je trouve ça assez, bah, justement, assez poétique, assez bien fait, quoi.
Ouais, et puis c'était assez explicite déjà dans la postlogie, quoi. C'est Luke qui a enseigné l'art Jedi à un jeune qui très puissant qui est devenu Dark Vador entre guillemets, quoi. Donc c'est le même, oui, c'est calqué. Je veux dire, c'était assez assez clair. Et moi, tu vois, typiquement l'état de Luke, moi, dans la postlogie, ça fait partie des choses que j'aime bien. Typiquement, ça aurait été facile de faire un paladin, tu sais,
exactement,
de vertu, machin, super fort, etc. Non, c'est plus intéressant de justement aller justement fouiller, parce que du coup, ce sont des Jedi, mais ce sont aussi des humains et qui sont toujours aussi tourmentés par leurs démons, leurs émotions, etc. Et du coup, c'est cet aspect des Jedi qui est intéressant, c'est cette lutte entre le sombre et la lumière. Si c'est tous des foules lumière tout le temps, c'est pas intéressant, quoi. Donc, c'est très bien, et cette époque pour Obi-Wan, elle marche bien aussi là-dessus, parce que du coup, bah, il a quand même vécu des trucs vraiment affreux, et tu comprends tout à fait, en fait, quand t'as cette confrontation entre Obi-Wan et le jeune Jedi, tu comprends, en fait, t'es plus, enfin, moi j'étais plus du côté de Obi-Wan, quoi. J'ai dit, mais si, arrête tes conneries, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais.
tu vas te faire buter, tu vas faire buter Obi-Wan alors qu'il a besoin d'aider Luke dans 10 ans. Donc voilà, donc ouais, tu es plus en phase avec Obi-Wan, et ce qui nous a manqué, enfin, je pense que les gens qui n'ont pas compris Luke, c'est que la narration a été faite différemment, et on n'avait pas tout de suite justement cet aspect-là qui était vraiment au premier plan, quoi. Le côté la déception d'avoir engendré Kylo, etc.
Je crois que
tout ça, c'est des infos qui arrivent plus tard, quoi, tu vois. Donc
tu sais, je crois que c'est une scène. S'il avait pas balancé le sabre laser derrière son dos, s'il avait juste même lâché au sol, tout serait mieux passé. Je crois que c'est juste cette désinvolture, cette moquerie que les gens ont pris comme une insulte. Mais bref, on parle pas de...
Quoi, alors que c'est du pur Yoda, en fait. Tu vois, tu reprends le Yoda de l'époque, il était comme ça, quoi. Enfin, limite.
Bon. Donc, on a ça. On a même Owen Lars, qui est donc l'oncle de Luke.
Oui.
Qui est hyper... Enfin, on le voit un tout petit peu, mais il est, du coup, on comprend, il prend un petit peu de profondeur, d'épaisseur. C'est vachement bien fait. Ouais. Puis on pourrait parler un petit peu de Riva, la Third Sister, qui est qu'on développe un petit peu plus dans l'épisode suivant. Mais il accepte d'aller chercher Leia qui s'est faite enlever, tombant ainsi dans le piège de Riva, et il quitte Tatooine. Donc là, c'est l'épisode 2 où il arrive sur, c'est quelle planète, Dayu. Sorte de planète un petit peu plus moderne que Tatooine, un petit peu plus néon, où il va rencontrer Haja, qui est un faux Jedi, mais qui est un vrai gentil, qui veut aider les gens à quitter l'oppression de l'Empire en leur extrayant quelques pièces au passage. Voilà. Et donc, il essaye de retrouver Leia. Il finit par la retrouver à la fin de l'épisode, c'est ça ? Oui.
Oui, c'est ça. Et puis, ils sont... Ouais, c'est ça. Exactement. C'est un peu un épisode... Alors, j'ai l'impression que cet épisode a été moins bien reçu que les autres. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Toujours à découvrir un peu d'autres environnements, d'autres endroits.
Je me demande si la légèreté avec laquelle Haja est traitée et traite... C'est un petit peu... C'est vraiment la blague, pour le coup. C'est Camille Nanjiani qui le joue. Je me demande si ça n'a pas irrité certains, mais bon. c'est presque un comédien, quoi. C'est pas un personnage de Star Wars.
C'est marrant que tu dises comédien parce que ça m'a fait penser vraiment à j'allais dire au Mandalorian. Pas du tout. Tu sais, dans Iron Man 3, là, le...
Ah oui, oui, le
mandarin.
Le mandarin, voilà. Le mandarin, exactement, oui.
Ouais, voilà, j'avais pensé à ça. Non, ouais. Moi, j'ai bien aimé ce perso. Alors, je trouve qu'il joue quand même un jeu un peu dangereux. Je ne sais pas combien de temps il peut tenir à faire semblant d'être un Jedi. Parce que du coup, il faut que les gens sachent quand même que c'est un Jedi pour venir le voir quand même. Donc,
oui, mais il ne faut pas que trop de gens le sachent parce que...
Donc, ça m'a pas du tout gêné. J'ai l'impression qu'on va le revoir quand même, hein, parce qu'ils ont... Le personnage était assez appuyé. Je trouvais que le personnage était assez appuyé. Alors, soit il est appuyé parce que c'est un caméo.
C'est ça, je pense que c'est ça, moi. Mais...
Soit on va le revoir. Après, bon, voilà. Ce qui est intéressant, comme tu le disais tout à l'heure, cet épisode-là, c'est surtout comprendre un peu plus qui est Reva... un peu ses motivations, parce qu'elle fait apparemment une fixette sur Obi-Wan particulièrement. Donc je suppose que ça va être au cœur de la série, de savoir pourquoi elle tient tant que ça.
Est-ce que c'est pour plaire à Master Vader, ou est-ce que c'est qu'elle a un passif avec Obi-Wan, peut-être?
Mais ouais, je sais pas. Tu sais, on a montré...
Pour plaire, hein. C'est une carriériste, tu sais. Ouais.
Mais tu sais, comme l'introduction, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais j'ai trouvé l'introduction vraiment superbe du premier épisode sur justement le massacre des jeunes Jedi.
Ouais, c'est vrai.
Alors déjà, premier point, ça m'a forcément fait penser à ce qui peut se passer aux États-Unis en ce moment, donc je trouvais cette scène... pouvait être un peu difficile dans la période, quoi, à regarder. Moi, ça m'a vraiment un peu donné ce genre de frisson-là, quoi. Et l'autre chose, ça s'installe vraiment à la fois l'état mental que peut avoir Obi-Wan, mais aussi du coup, je me suis demandé si cet événement-là allait pas être aussi au cœur de, pour Reva par exemple, peut-être que c'était une de ces jeunes recrues de l'époque, tu vois, qui par la force des choses du coup se retrouve à cette position-là. Donc je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a plus que ça avec elle, que c'est pas juste je veux plaire à Vador. J'ai l'impression qu'ils vont quand même aller un peu plus loin, enfin j'espère en tout cas.
C'est possible. Mais cette scène, effectivement, on peut en dire juste deux mots de plus, parce que simplement ça montre à quel point j'aimerais bien en fait avoir des remakes de la prélogie pour que tout le... parce que l'histoire en elle-même, elle est vraiment, c'est une tragédie grecque, quoi. C'est vraiment plein d'émotions et plein de force, et elle a été présentée de manière si malhabile que la plupart des choses tombent à plat, je trouve. Mais toute cette histoire de le sénateur qui manipule la géopolitique de la galaxie pour accéder au pouvoir et en faire un empire, et ce massacre absolument terrifiant de ce personnage qui était... tu vois, qui est tellement torturé et qui finit par faire quelque chose de, enfin, plus qu'impardonnable, on ne le ressent pas du tout en voyant la prélogie. Alors, il faut, tu vois, quand tu regardes les images, tu ne le ressens pas, et quand tu y réfléchis, tu le comprends vraiment. Et c'est vrai que là, tu le sens, même s'il ne montre rien, tu sens même un petit peu plus encore le drame de ce qui est en train de se passer dans cette introduction. Donc... ouais, t'as bien fait de le mentionner. Et du coup, dans la suite de l'épisode 2, on a encore une scène avec Leia qui échappe à son poursuivant en passant derrière des caisses. Et puis on a cette poursuite sur les toits avec quelques chasseurs de primes et la confrontation un petit peu entre Reva et le grand inquisiteur. Et Kenobi, quand elle tue le grand inquisiteur, qui était assez... je l'ai trouvé bien mené également, parce qu'on sent la tension, et puis on sent que, surtout, Kenobi, qui est l'un des plus grands Jedi qui soit, bah, il devrait pouvoir se battre contre n'importe qui, tu vois. Et il peut pas, il ose pas, il veut pas. On sent qu'il a 10 ans d'inactivité dans les bras aussi. Donc la tension par la non-action dans cette scène, je l'ai trouvée bien, bien rendue également.
Ouais, et d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a dit, mais j'ai l'impression qu'il n'utilise pas du tout la force dans aucun des trois épisodes. Ou alors
ah si, alors il arrête justement la chute de Leia à la de l'épisode 2.
C'est à ce moment-là qu'il le fait, c'est vrai.
C'est ça. Et il essaye de parler à Qui-Gon Jinn, son ancien maître, à plusieurs reprises, il n'y arrive pas. Je suis sûr qu'il va apparaître au bout d'un moment dans l'un des derniers épisodes.
Oui, c'est certain, ça.
Et du coup, oui, la confrontation entre Reva et le fait qu'elle tue le Grand Inquisiteur, c'était assez surprenant. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent que c'est celui qu'on voit ensuite dans une série qui se passe un petit peu après, Rebels peut-être, je ne sais plus. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se demandent...
J'ai lu ça aussi.
Il y a beaucoup de gens qui se disent, mais du coup, est-ce qu'il est mort ou pas ?
A priori, c'est le même. Hein. A priori, c'est bien le même. Donc,
Mais du coup, il ne doit pas être mort, tu vois. Et les créateurs ont dit, on ne casse pas le canon, on ne dit rien, mais on ne casse pas le canon, donc il y aura un truc, il n'est peut-être pas mort. Et puis, on a cette scène, bon, si tu n'as rien à dire sur Reva et l'Inquisiteur et leur fuite, et puis on a la scène sur... À ce moment, on voit juste Anakin qui ouvre les yeux ou un truc du genre. C'est pas là qu'on voit... Ah non, c'est l'intro de l'épisode suivant où on voit ça.
C'est après, c'est ça.
Et d'ailleurs, je trouve ça... Vas-y.
Oui, vas-y. Non, vas-y.
Je trouve ça assez fort qu'ils aient pas... qu'ils se soient pas privés de vraiment montrer Dark Vador. Tu sais... c'est un personnage qui est tellement mythique, qui est tellement sacré, que on aurait pu se dire ils vont pas le montrer, on va montrer comme dans la prélogie juste le casque. Encore un exemple, s'ils avaient coupé avant le no dans la prélogie, ça aurait été tellement plus efficace. Mais bon, tu vois, peut-être qu'ils seraient contentés de faire ce genre de choses, mais au final. Ils y vont, et du coup, on peut transiter sur l'intro de l'épisode 3. C'est hyper... ça fonctionne, c'est hyper oppressant, presque. Tu vois, quand on voit véritablement ce qu'il est advenu de Anakin Skywalker, c'est encore un poids beaucoup plus fort que tout ce qu'on a pu voir avant dans la série. Pour le coup, je trouve que... Pardon, dans la série, dans la saga. Parce que là, je trouve que la série... Elle amène des trucs, elle approfondit vachement le personnage de Obi-Wan Kenobi et elle approfondit l'image, le caractère et même le personnage de Anakin Skywalker, ce qui était, enfin moi, j'y croyais pas vraiment quoi, qu'on toucherait à ça et qu'on réussirait à faire ça.
Ouais, et du coup, là, en reparlant des épisodes, je me rends compte à quel point les intros des trois en fait sont super réussies quoi.
C'est quoi l'intro du deuxième ? Je me souviens plus.
Alors, l'intro du deuxième, c'est justement, alors là, du coup, c'est après la fuite du premier. On a un Obi-Wan qui est en train de méditer pour essayer de contacter Qui-Gon. Donc là, du coup, tout à coup, on passe sur des plans assez doux, avec des légers travelling et ce genre de choses-là. Donc vraiment, tu quittais un peu le côté. Un peu, action du premier. Et puis, t'as le parallèle entre ce Obi-Wan qui médite et justement Dark Vador qui met son armure, etc. Et tu vois, et du coup, là, tu te dis, ok, bon, ça, t'as le parallèle, donc ils vont peut-être s'affronter plus tard, etc. Enfin, je trouve que c'est assez bien construit, quoi. Et chaque épisode arrive à te mettre un peu dedans comme ça, même si t'as des faiblesses qui arrivent après, qui peuvent décevoir, etc. Je trouve qu'à chaque fois, leur mise en bouche d'épisodes sont super réussies, quoi.
Ouais. Et du coup, on a cette intro dans le troisième avec donc Dark Vador, et donc on comprend que on va peut-être en voir un peu plus. Et ils arrivent encore une troisième planète, Mapuzo, où il y a cette sorte de long voyage dans le désert. C'est un petit peu ridicule encore. Ils vont aller où? Ils font quoi? Bref, peu importe. Et ils se font arrêter par les Stormtroopers, comme on dit, les gardes impériaux. Comment on dit Stormtroopers?
On dit Stormtroopers, non?
Ouais, les Stormtroopers. mais il doit y avoir un mot français. Les troopers de l'orage. Non, c'est peut-être pas ça. Au Canada, ils disent peut-être ça.
Mais du coup, ils font de l'autostop.
C'est ça. Ils font de l'autostop.
Avec un mec très, très, très joyeux qui est joué par Zach Braff. Je ne sais pas si tu avais reconnu la voix.
Ah, non, je ne savais pas. D'accord.
Ouais. Très bien. Ouais. Et je trouve que. J'ai trouvé cette scène super chouette. C'est-à-dire que du coup, on a Obi-Wan qui est super méfiant et Leia qui prend les choses en main.
Et qui, encore une fois, montre son futur de leader.
Sa débrouillardise, etc. Et puis après, quand il passe derrière le camion et que tu vois le petit logo de l'Empire, je trouve que ça marchait d'enfer, quoi, cette scène. Et puis après, t'as toute la tension de justement, bah, t'as des Stormtroopers qui sont en autostop aussi. Et puis, voilà, et puis il les interroge, etc. Enfin, je trouve que ouais, ce début d'épisode, il est très chouette, quoi. Et puis
Ouais,
après,
il fonctionne bien.
jusqu'à leur capture, effectivement. Ouais.
Et puis leur capture, enfin leur capture et
Ah
puis
ouais,
non
alors, ouais.
capture, et ils s'évadent dans l'autre planète, et on retrouve encore les inquisiteurs, et d'ailleurs cette tension avec qui essaye de plaire à Vador, et le cinquième frère et la troisième sœur qui se battent dans la politique de l'Empire. Et l'autre, je ne sais pas laquelle c'est, la troisième qui est là, qui regarde, tu sais, à droite et à gauche, genre, moi, je vais juste rester en dehors de toutes ces histoires. Je vais faire ce qu'on me dit. Et du coup, bien sûr, l'arrivée de Vador dans la ville, avec, encore une fois, pour le coup, une cruauté qui
Ah ouais.
est dérangeante, quoi. Tu vois, ce genre de truc, autant. Et c'était le but, hein, de la prélogie. Autant tu peux montrer la prélogie aux enfants de 6 ans, autant ce truc-là, je sais pas, il faut au moins 12-15 ans, tu vois, pour le regarder. Parce que Darth Vader, il est juste. Tu comprends qu'il a une haine féroce en lui qui le pousse à essayer de retrouver Obi-Wan, quoi qu'il arrive. Mais ils massacrent les innocents en face de leur, enfin des enfants en face de leurs parents. Enfin, c'est horrible. Et donc il y a cette tension qui s'installe et puis le combat avec Obi-Wan. Mais ouais, c'est cette scène m'a marqué, quoi.
Ouais, non, son arrivée, effectivement, là, tu sens tout le danger du personnage, et puis du coup, ça, voilà, ça te crée une tension, parce que là, à ce moment-là, tu sais que Obi-Wan, il est plus du tout dans le coup, quoi. Là, tu sais qu'il va avoir beaucoup de mal à gagner un duel contre ce Dark Vador-là. Et du coup, après, ouais, tu as toute une scène que je trouve assez réussie, hein, dans la pénombre, avec la lumière des sabres. Puis après, tu as toute la scène avec le feu, Dark Vador qui essaie finalement de se venger, d'essayer de faire subir un peu la même chose à Obi-Wan, etc. Avec un superbe costume de Dark Vador qui reflète les flammes, etc. Non, je trouve ça assez iconique, hein, tout ça, je trouve ça super iconique. Après, bon, tu comprends pas forcément ce qui se passe parce que du coup, ils arrivent à s'enfuir. Dark Vador, il a pas l'air
C'est encore une
de
fois,
s'en faire plus que ça.
voilà, il y a du feu sur 10 mètres et les mecs, ils peuvent pas passer, tu vois,
Il tire dans l'autre
contourner.
côté sans jamais rien toucher, là, comme des
Alors
Stormtroopers d'ailleurs.
ça, c'est les
Ça, c'est
Stormtroopers, oui. C'est le
tout
truc.
Star Wars.
Dans cette galaxie, tu sais, génétiquement,
Ouais.
tous les personnages de cette galaxie, tous les humanoïdes de cette galaxie sont incapables de viser. Mais ça, bon, c'est pour ça que les sabres laser sont des armes tellement puissantes, parce qu'un flingue, tu peux pas toucher qui que ce soit, quoi qu'il arrive. Donc, bon. Mais oui, donc ils peuvent pas contourner le feu. Enfin bref, c'est encore un truc un petit peu ridicule. Mais oui, le combat fonctionne et la gravité du personnage de Dark Vador est vachement bien retransmise. Donc oui, tout ça fonctionne. Et puis au final, ils réussissent à s'enfuir, mais Riva capture Leia. Et du coup, on se demande, parce que mine de rien, le truc qui était très peu présent dans la trilogie d'origine. C'était la relation père-fils et fille entre Luke et Leia, surtout parce que ça a été décidé genre au deuxième épisode. Mais Leia était largement en retrait par rapport à Luke, et donc on n'a jamais eu un petit peu cette histoire. Je me demande, moi, s'il va pas y avoir un moment où Anakin va voir, tu vois, va rencontrer Leia et sentir un truc, et ça va être un peu bizarre ou. Enfin, je sais pas, mais cet aspect risque d'être. Parce que maintenant, elle a été capturée par Riva, donc qu'est-ce qui va se passer, quoi?
Ouais, après, voilà. Après, comme on connaît la suite, normalement, enfin, y a, tu vois, ça aiguille un petit peu forcément. On sait qu'il va finir par capturer Leia, du coup, dans la trilogie originale, sans savoir que c'est...
Que c'est sa fille, ouais. Non, mais je me demande s'il va pas... La
force, etc., quoi, tu vois.
Ouais, c'est sûr. Ouais, donc voilà, bon, pas grand chose à dire de plus sur cet épisode, je crois.
Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Après, pour la suite, bah, il reste l'autre moitié de la série. J'espère que qu'on va quitter un petit peu les petites routines qui se sont installées, c'est-à-dire Reva qui essaie d'avoir Obi-Wan, qui essaie de plaire à Vador, enfin les petites redites, les fuites incessantes, on se fait capturer, on fuit de manière ridicule. J'espère que ça aussi on va un peu le quitter pour partir un peu sur autre chose, parce que je pense que si on fait encore 3 épisodes comme ça, ça risque d'être quand même un peu lassant, même si on aime bien. Je pense qu'il faut passer un peu à autre chose. Donc voilà, donc moi je suis plutôt positif, j'espère que voilà, j'ai bonne confiance pour la suite. Donc là il y en a un la semaine prochaine et puis les deux derniers en même temps la semaine suivante.
Ah, j'avais pas saisi ça, d'accord.
Il me semble bien.
Écoute, moi ce que je vois comme date c'est 8 15 22. Donc
d'accord, bon, pour moi.
Peut-être pas. Bah oui, moi je suis assez intrigué pour le coup et maintenant mes attentes sont un petit peu plus élevées. Alors bon, on en a dit beaucoup de bien de la série, c'est pas non plus la série de l'année hein, ou du siècle. C'est juste qu'elle est vraiment plaisante et j'attends du coup avec impatience les 3 épisodes suivants. On verra ce que ça donne et on fera un super laser punch sur le sujet quand on aura vu les 3. Avant de se quitter, je voulais parler de deux petites choses. Si ça te va. D'abord, il y a cette semaine la série Miss Marvel qui commence. Et là, je peux vous dire que je suis hyper chaud. Ça va être difficile pour moi de ne pas être déçu parce que j'ai l'impression que de toutes les séries qui sont en préparation, Miss Marvel, c'est celle dont on a le plus parlé dans cet épisode en disant « Ah ouais, ça va être sympa, j'attends, j'ai hâte, tout ça. » Donc, j'imagine que tu es très chaud aussi, toi.
Ouais, je suis au top là. Semaine prochaine, je pense que c'est... Tu vois, il y aura Star Wars et Miss Marvel en même temps. Ouais. Et ben, clairement, ça sera Miss Marvel.
ouais, je le pense aussi, ouais. T'as vu le trailer de Miss Marvel ou pas?
Alors, j'ai vu les premiers teasers, mais j'ai pas regardé les trailers. D'accord,
moi j'ai vu un teaser aussi, genre une minute d'image.
Alors, bon, avec Twitter, malheureusement, hein, on a des screenshots de partout, machin. Donc,
bon, ça a l'air très... Ça a l'air très... Teen drama, quoi. Ce qui est exactement ce qu'est le comic. Donc, bon, on verra ce que ça donne. Et puis, l'autre chose dont je voulais te parler, c'est mon expérience de... j'étais à Paris il y a quelques semaines de ça. Du coup, on est allé à la FNAC. Et je voudrais saluer et admirer la maestria de Disney dans l'infection des esprits de nos enfants les plus jeunes avec tous leurs produits. Je ne sais pas si t'as déjà vu les livres pour enfants, mes petits-enfants, de Marvel et Disney d'ailleurs, des dessins animés, et de Star Wars. Est-ce que t'as déjà vu ce qu'ils proposaient pour les tout-petits ou pas?
Alors, Star Wars, non. Après, d'autres trucs Disney pour les tout-petits, oui, mais...
En fait, ils ont toute une série de... Tous les films... Enfin, la plupart des films sont disponibles en livre, en différents formats, avec du contenu qui est écrit pour le format le plus long et le plus grand, et qui est repompé pour des formats plus petits qui se destinent à des enfants de plus en plus jeunes en adoucissant tous les trucs. Enfin, déjà, à la base, les trucs ne sont pas hyper durs, mais en particulier... Pardon. En particulier sur les trucs de super-héros, il y a des livres Marvel et notamment Spider-Man, genre 3 minutes avant de s'endormir. Et c'est des trucs, évidemment, personne ne se fait taper. Enfin, si, il y a des coups, mais personne ne meurt, il n'y a pas de truc trop horrible. Et c'est expliqué vraiment les aventures de Spider-Man et de... Alors, il y en a 3, en fait. Il y a Spidey, Spin et Ghost Spider. C'est les mêmes que dans les dessins animés.
Ouais.
Pour enfants, que mon fils ne veut pas regarder parce qu'il a peur de ces trucs-là. Mais du coup, en livre, il les lit et on en a acheté. Et il y a aussi toute la saga Skywalker en livre, qui est un peu plus compliquée parce que c'est difficile à faire tenir sur des... C'est, pour des enfants de 4 ans, là, c'est vraiment compliqué, c'est un peu plus âgé. Mais les trucs de super-héros, ça passe super bien. Et maintenant, mon fils est complètement... Il connaît... Pardon, je crache mes poumons. Maintenant, il connaît tous les super-héros parce qu'il a ses petits livres. Alors, il y en a un, c'est 3 minutes d'histoire de Spidey. Il y en a un autre, c'est les Avengers. Et ils insèrent des petits personnages de différentes sagas, enfin, de différents groupes et différents trucs. Et ils ont certaines histoires qui sont recoupées pour faire tenir en 3 minutes et d'autres, tu vois, il y a la même version dans les livres ou en 5 des histoires en 5 minutes qui sont du coup un peu plus longues. Mais c'est vraiment des génies du marketing parce que, évidemment, en tant que parents qui adorons ces trucs-là, on se dit, bah, j'aimerais bien, tu vois, plutôt après, quand on a fini de lire les Choupi et les Timothée et toutes ces conneries, j'aimerais bien passer à des trucs marrants mais que je puisse lire à mes enfants que j'aime bien avec des trucs genre Spider-Man et tout ça. Mais qu'il soit adapté
Disney Plus.
Ouais.
Ouais, sur Disney Plus, je sais pas si tu as essayé de lui montrer Meet Spidey and Amazing Friends.
And his Amazing Friends, mais oui, bien sûr.
Ouais,
mais il a
les
peur.
Les shorts, là.
Ouais, c'est alors les shorts, non. J'ai essayé les épisodes de 20 minutes, mais il y avait Rhino qui était là. Il a eu peur de Rhino parce qu'il cassait les murs. Donc, malheureusement. Mais
du coup, nous, c'est ça. Elle regarde les shorts, quoi. C'est-à-dire, vraiment, c'est des épisodes de 3 minutes où, c'est marrant, on a le même prénom. Bah, du coup, il faut quand même qu'on se mette des pseudos différents pour qu'on se reconnaisse. Bah, moi, ça va être Spidey. Moi, ça va être Spin. Tu vois, c'est vraiment... Et puis, fin de l'épisode, quoi. Genre,
c'est ça, ouais.
Et c'est assez chouette, quoi. Et puis, du coup, ça présente les personnages. Alors, évidemment, tout ça, c'est du lavage de cerveau de Disney. Hein,
mais c'est ça que je voulais...
Ils achètent des vinyles de machin et des jouets machin, on est d'accord. Mais c'est chouette. Et puis ça permet aussi de partager quelque chose, quoi. Parce que
exactement.
Nous, on lui a offert des Lego Spider-Man et elle joue avec. Et elle, du coup, maintenant, elle connaît un peu ce qu'ils font, donc leurs pouvoirs, etc. Et tu la vois jouer avec ça. Et puis moi, je peux jouer aussi avec elle. Et puis. Non, c'est super chouette ce genre. Ouais. Du coup, j'irai voir Star Wars. Du coup, j'irai voir à la Fnac. Hein. J'essaierai de chercher ce que tu as trouvé. Mais ouais, moi, je trouve ça chouette, quoi. Puis ça va être. Nous, nos enfants arrivent dans des âges où justement, on va commencer à pouvoir partager des histoires communes. Parce que bon, pas de patrouille, c'est sympa. Mais
exactement. C'est ça. Alors, tu vois, ils regardent aussi les Otis et les Opaisibles et les trucs. Très bien, d'ailleurs, Opaisibles sur Disney+. J'en parlais dans Positron. Mais ils regardent tous ces trucs aussi, évidemment. Mais ouais, alors, comme je te disais, Star Wars, c'est un peu compliqué. Hein. C'est les trucs, en fait, des gros livres en 5 minutes par histoire. Et ils te résument, en fait, un film entier en 5 minutes. Alors, même dans la prélogie, je disais, c'est un peu... c'est présenté de manière assez enfantine. Bon, expliquer les jeux géopolitiques entre la fédération des traders et l'Empire, et bon, c'est compliqué. Par contre, les trucs Avengers, ça passe sans problème. Et du coup, maintenant, mon fils, il veut être Captain Marvel, tu vois, qui va dans l'espace. Et il me dit « Ah, et on dirait que maintenant, j'essaye de trouver Ultron. Et toi, tu es Captain Marvel. Et moi, je suis le chevalier. Et tu croyais que le chevalier était Ultron. » Et du coup, c'est adorable, tu vois. Enfin, c'est exactement ça, c'est du lavage de cerveau complet, c'est de l'infection de Disney, parce qu'après, évidemment, ils vont aller chercher les autres trucs. Mais oui, ça nous permet de partager un truc, parce que, voilà, Otis, le tracteur de la ferme, ça va 2 minutes, mais... Et du coup, je lui ai mis le jeu Spider-Man sur PS5, et j'avais peur qu'il tombe sur les combats et que ça lui fasse peur ou tout, mais non, en fait, il va juste se balader entre les immeubles en jouant à Spider-Man. Et du coup, maintenant, il connaît Spider-Man Miles Morales et Spider-Man Peter Parker et Ghost Spider et tout ça. Donc, c'est super cool. Donc voilà, je voulais juste mentionner à quel point, mais qu'est-ce qu'ils sont forts, parce que ces livres, quand toi, tu es... un gène Xer et que tu veux faire un truc avec tes enfants qui puissent voir, tu vois, au bout d'un moment, alors on lui a acheté des livres sur l'histoire de la vie et des trucs, tu vois, hyper, enfin l'histoire de France et des trucs hyper sérieux, il y en a plein, et je visite Paris et je regarde mon premier atlas et tous ces trucs, évidemment, il en a des tonnes, mais au bout d'un moment, t'aimes bien aussi des trucs auxquels il peut jouer, quoi, donc...
Ouais.
C'est sympa. Et voilà pour cet épisode de Super Laser Punch. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, Johan. C'est toujours un immense plaisir de geeker.
C'est un plaisir de partager. Ouais. Ouais, ouais.
Où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-moi, il y a des trucs qui arrivent avec les TJV. Tu vois, je te fais plaisir, je l'appelle comme tu le dis. Et je sais que tu travailles sur des trucs, des documents intéressants.
Ouais, alors bah du coup, vous pouvez me retrouver sur Twitter, hein, @yohante_. Je suis en train de travailler effectivement sur un gros document qui permet de retrouver facilement toutes les annonces de l'été JV, donc de toutes les conférences jeux vidéo de l'été. Donc là, je prends un peu mon petit plaisir à essayer de faire des graphiques et tout, machin. Je fais ça voilà pour rien, hein, parce que bon, du coup, je sais pas combien de personnes vont venir voir ça, mais en tout cas, moi, je le fais pour moi et ça me fait plaisir. Et vous devriez aussi me retrouver du coup sur les commentaires des conférences sur la chaîne Twitch de Perso Caché. J'en parlerai sur Twitter quand le moment sera venu. Mais voilà, c'est le meilleur moment de l'année qui va commencer là.
Ouais, notre Super Bowl à nous, notre Coupe du Monde à nous, qu'on a tous les ans. Et donc, tu vas participer aux commentaires sur la chaîne de Perso Caché ?
Ouais, c'est ça. Cette année, je fais ça. Ouais.
Super. Très cool. Ben, on te retrouvera là-bas. Pour ma part, c'est NotePatrick à peu près partout. Vous pouvez retrouver sur notepatrick.com les liens vers les podcasts que je fais, que je produis, et notamment le rendez-vous jeu, puisqu'on parle jeux vidéo. Il y aura, bien sûr, toutes les infos également résumées après coup pour toutes les conférences et le rendez-vous tech où on va demain, au moment où on enregistre cet épisode, parler de la WWDC, parce que les conférences, c'est pas que dans le jeu vidéo, il y a aussi la tech et Apple qui va annoncer plein de trucs, ses nouveaux OS, tout ça, ça va être hyper intéressant. Et on résumera ça dans le rendez-vous tech. Et tous les liens de tous ces podcasts sont sur notepatrick.com. On vous remercie de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
We're all looking to make more sustainable choices, but making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. The twigs and leaves in your yard aren't exactly comfortable, and while mud does perfectly contour the feet, it doesn't score high on the durability front. But thanks to Allbirds, you can skip all the backyard experimentation. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the sciencey stuff like research and testing to create shoes from natural, sustainable materials. And their innovative processes mean using less of the bad stuff and more of the good, while making shoes unlike any other. Like the Plant Pacer, made with 100% plastic-free plant leather. The Tree Dasher, a running shoe made from eucalyptus tree fiber. And from Sugarcane, they've made the Superlight, their lightest shoe ever by weight and carbon footprint. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're super natural. Find your perfect pair at Allbirds.com today. That's Allbirds.com.